France Musique.
Il muette, il inoubliable sans nom. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous dominical qui ouvre grand les oreilles à l'écoute des cultures musicales du monde entier. Chaque semaine, une destination vous ouvre le carnet de voyage de celles et ceux, ethnomusicologues, qui font du voyage, de la rencontre et d'une culture d'adoption leur vie. Ce soir, nous partons dans le Caucase et barouderons dans quatre pays, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie, le Kurdistan, au cœur de communautés atypiques peu connues et de répertoires liés pour la plupart au deuil. Femmes mola d'Azerbaïdjan, communauté molokane, femmes kurdes vivant dans des bidonvilles d'Istanbul ou dans les provinces de l'Anatolie orientale, qui chantent le Kurdistan mythique, perdu. Nous partirons également en Arménie chez les yézidis et leurs chants qui disent la douleur de l'exil et de la mort. C'est un carnet de voyage on ne peut plus intime que partage avec nous ce soir l'ethnomusicologue Estelle Amie de la Brothèque. Bienvenue à elle, bienvenue à vous. Et maintenant, partons. Estelle, amie de la Brothèque, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Alors, je suis absolument ravi de vous accueillir pour ce voyage tripartite, en quatre parties aussi. Alors, on va parler avec vous de vos différentes destinations. De quand date votre première grande émotion musicale ?
Peut-être au début des années 2000 sur le premier terrain que j'avais fait en Azerbaïdjan. Lorsque je me suis retrouvée pour la première fois dans une cérémonie funèbre avec des femmes mollas. Et la musique était simple en apparence, enfin, les mélodies étaient simples, le rythme était assez simple, mais l'émotion était tout à fait prenante.
Et comment vous vous étiez retrouvée là ?
J'étais allée faire de manière assez académique, j'étais allée faire un voyage d'études pour une maîtrise de russe et une maîtrise d'ethnomusicologie en Azerbaïdjan. Et le sujet initial était tout à fait différent, mais en me retrouvant dans cette cérémonie, j'ai décidé d'y travailler plus profondément.
Alors, nous allons commencer avec l'Azerbaïdjan, justement, ce voyage, ce carnet de voyage qui est le vôtre et celle amie de la Brothèque, avec une communauté souvent désignée comme les protestants orthodoxes. une communauté qui s'est désolidarisée du courant majoritaire orthodoxe et qui a été déportée de Russie vers le Caucase. Les Molokans.
Oui, alors les Molokans sont effectivement une communauté qui est née au début du XVIIIe siècle et c'était un peu en réaction, enfin c'était à la suite de tout un tas de mouvements religieux qui ont commencé au début du XVIIe siècle en Russie, au moment du schisme entre l'église d'État orthodoxe russe et les vieux croyants, ce qu'on appelait les vieux croyants, des gens qui ont refusé les réformes du patriarche Nikon. Et vers le XVIIIe siècle, ces mouvements-là, en fait, se sont transformés vers des mouvements plus protestants, si on peut dire, dont les Molokans, qui sont en fait des chrétiens qui se revendiquent comme suivant les enseignements des premiers chrétiens, donc les enseignements de Moïse. Et ils refusent, par exemple, enfin, ils se considèrent comme étant hors de l'église, ils n'ont pas de clergé, ils n'ont pas d'église, ils se retrouvent le dimanche dans les maisons des prières.
Pas de lieu saint, ce qui est saint, c'est la communauté et c'est le fait d'être ensemble.
Voilà, tout à fait.
Voyage avec vous en Azerbaïdjan pour notre première destination, Estelle, amie de la Bretèque. Alors là, un enregistrement tout à fait passionnant, musique que je trouve magnifique, chez les Molokans. Alors de quelle ville? De Bakou?
Oui, là c'est enregistré dans la maison des prières de Bakou.
Et qui est une pièce qui ressemble à quoi?
Une petite isba, une petite maison en bois. On rentre par une petite porte, on dépose son manteau et dans la pièce suivante, on a des bancs et une table au milieu, sur la table, une Bible. Et assis à la table, en fait, ce sont les hommes, les vieux, les starci, les sages de la communauté qui s'assient à cette table et qui lisent la Bible. Et puis le chœur reprend chacune des phrases de la Bible en chant.
Alors, il n'y a que les femmes qui chantent ou les hommes aussi ont...
Le chœur peut être mixte. C'est souvent les femmes. En fait, il y a plus de vieilles femmes dans cette communauté que de vieux hommes. Les hommes meurent plus jeunes, mais ça peut tout à fait être mixte. Là, dans cet enregistrement, il y a un seul homme qui chante.
Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que, bon, protestant orthodoxe, hein, pour faire simple, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais ce qu'on entend, ce n'est pas du tout de la liturgie orthodoxe sacrée. Ça ressemble plus à des polyphonies rurales.
Tout à fait. Au niveau musical, ça ressemble aux polyphonies populaires paysannes qu'on entend dans les plaines centrales de Russie. La grande différence, ce sont les textes, puisque là, on chante la Bible, et uniquement la Bible. C'est-à-dire que dans la maison des prières, et dans l'ensemble des rituels molokanes, d'après ce que tous les molokanes m'ont dit, on ne chante que la Bible. C'est-à-dire que ce sont les seules paroles que l'on peut prononcer en chantant, ce sont les paroles de la Bible.
Est-ce qu'on peut modifier le texte ?
On ne le modifie pas, par contre on insère au milieu des phrases des diphtongues ae, aou, aï, plusieurs fois même au sein de chacune des phrases, histoire de donner plus de temps à l'auditeur pour digérer, méditer sur le sens des paroles.
On en reparlera de ça, d'étirer le temps justement avec aussi les monodis et des yézidis d'Arménie, dire le chant ou chanter le texte, bon il y a une distinction qu'on verra. Mais alors pour revenir sur les molokanes et finir, éthique du travail et du partage tout à fait particulière.
Oui, c'est une communauté qui utilise le troc à l'intérieur de la communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange marchand, pas d'échange d'argent entre les membres de la communauté. Et si je prends l'exemple du village d'Ivanovka en Azerbaïdjan, qui est un village à grande majorité molokane, c'est-à-dire qu'il y a juste deux ou trois maisons d'Azeris dans ce village-là, c'est un village dans lequel il n'y a pas d'argent et on échange un poulet contre trois choux. C'est un village aussi dans lequel le kolkhoz a été gardé, donc les fermes collectives d'État qui étaient en œuvre dans l'URSS ont toutes disparu dans l'Azerbaïdjan post-soviétique, sauf dans ce village-là où ils ont gardé la structure en kolkhoz. Et donc il y a un système de partage à l'intérieur du village, mais tout à fait différent à l'extérieur de la communauté, puisqu'on utilise l'argent pour converser, pour échanger avec les autres. On peut faire du business, même c'est le mot qui avait été employé dans mes échanges en russe avec les gens. On fait du business à Bakou, et les gens de ce village-là, du village d'Ivanovka en Azerbaïdjan, ont ouvert un magasin dans la rue la plus commerçante de Bakou, un magasin dans lequel ils vendent du chou mariné et des produits laitiers, produits de très bonne qualité d'après eux, et qui du coup ils vendent plus cher que le chou mariné fait par les Azeris.
Estelle, l'amie de la Bretèque, alors là nous sommes toujours en Azerbaïdjan, avec un répertoire tout à fait particulier, très intéressant, très beau, très intimiste, dans la péninsule d'Apcheron, donc c'est la pointe du Caucase en fait. C'est la pointe
orientale. C'est l'est du Caucase, la péninsule de l'Apcheron. C'est sur cette péninsule que se trouve la ville de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan.
Donc mer Caspienne. Et alors là, c'est quelque chose que vous avez étudié, répertoire de femmes mollahs azéries, chiites, qui chantent la mort. Parce qu'on considère qu'une femme qui a donné vie est peut-être plus à même de chanter la mort.
C'est vrai, c'est ce qu'elles disent. Plus même que de chanter la mort, elles disent la mort. Puisqu'en fait, ces lamentations-là, dans la typologie locale, ça a vraiment le statut de parole. Une parole tout à fait spécifique, mais c'est pas considéré comme étant du chant ou de la musique.
Mais pourquoi ?
Sûrement pour le côté triste, pour les émotions en fait qu'elles véhiculent. Tout ce qui est du côté de la tristesse est plutôt pensé comme étant l'expression d'émotions vécues, et du coup du côté de la parole. Alors, ces femmes mollahs sont en fait toutes des femmes qui ont vécu des deuils personnel, la perte d'un frère, d'un fils, d'un père.
Et c'est à partir de cette souffrance personnelle qu'elles se disent mollahs aussi ?
C'est à partir de ce moment-là, en général c'est autour de la quarantaine ou après, qu'elles suivent une petite formation auprès d'autres mollahs pour apprendre à dire les textes religieux. Et petit à petit, elles en viennent à guider les cérémonies funèbres et les cérémonies de deuil.
Estelle, amie de la Bretèque, alors nous écoutons une lamentation funéraire, hors contexte. Là, on est carrément dans la cérémonie funéraire qui s'appelle le Thésier. Est-ce que vous pourriez décrire ce qui se passe là ?
Tout à fait. Alors, on était en 2002 dans le village de Kobi, en Azerbaïdjan. Et on est dans une cérémonie de deuil. En fait, les Thésiers sont des cérémonies funéraires. Donc, au moment de l'enterrement, on fait ces rituels. Mais aussi, 3 jours après le décès, 40 jours après le décès, 1 an après le décès d'une personne. Donc, c'est aussi des cérémonies de commémoration. Donc là, on est à la commémoration 40 jours après la mort d'un vieux berger dans le village de Kobi. On est dans la grande pièce de la maison de ce berger-là. Il y a une 40aine de femmes qui sont toutes assises, voilées, et qui reprennent en chœur le refrain d'une merciée, une lamentation collective, entonnée par une femme mola, en se frappant sur les cuisses ou la poitrine pour marquer le rythme.
En plein rituel en Azerbaïdjan, du côté de Bakou, avec ces femmes azéries chiites dans le rituel du Thésier. Rituel où on a l'impression que ces femmes chantant, est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée, Estelle Amie de la Bretèque, d'une forme de berceuse de la mort ou de la personne morte, de l'accompagner ?
Ce qu'on entend en ce moment, c'est un mercier, donc une lamentation collective. Mais très souvent, elles sont enchaînées avec une forme de lamentation plus individuelle qu'on appelle laïlalar, et qui signifie littéralement berceuse en azéri. Donc en fait, on berce le mort, on berce les vivants aussi. On les berce dans leur douleur, dans leur deuil. On leur fait vivre leur deuil, non pas pour les soigner du deuil, non pas pour les guérir, mais plutôt pour leur apprendre à vivre avec.
Ça en dit beaucoup sur l'appréhension même de la mort.
Tout à fait. C'est une compréhension tout à fait différente de celle qu'on peut ressentir plus dans nos sociétés occidentales. Là, on vit avec le deuil. On ne cherche pas à se débarrasser des morts. On les garde avec nous et on vit avec.
Est-ce qu'il y a une forme de recherche de la souffrance aussi, au quotidien ?
On peut le dire, oui. Presque un plaisir dans l'entretien des sentiments de tristesse et du deuil. On en reparlera un peu plus tard aussi dans l'émission.
Et au niveau des textes ?
Au niveau des textes, donc les Marseillais sont des formes assez fixes. Vous pouvez l'entendre d'ailleurs, l'assemblée répète un refrain. Et les paroles évoquent les souffrances des martyrs du chiisme, donc Hassan, Hussein, Fatima, et le vide laissé par la mort.
Sahibi menber menem, sahibi menber menem, naibi hider menem, sahibi menber menem. Dünyadan giden atasından asnır ruhu. Dünyadan giden bacı kardeşinin ruhu. Ezasına gelen ana bacıların cem yölenleri. Salavat hediye eyleyek, ne o hediye bizi feyziye veriyen bacımı, hanım meşhedi anasının ruhuna salavat. Nene babalarının ruhu yakında salavat. Kaynata kaynanasının ruhuna salavat. Ezaya gelenlerin cem yölenleri yakında salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir salavat hetm eyleyek ehli kabristana. Allah bu meclisi kabul eylesin. Allah baba kardeşin yerin beyişti helal. Balaların yerin gökün belasından sakla. Ey alına can sağlık versin.
France Müzik. Carnet de voyage, on tourne la première page de votre pérégrination Estelle Amie de la Bretèque. Alors on laisse de côté l'Azerbaïdjan pour aller vers un répertoire sensiblement dans la tonalité semblable, toujours chanter ou alors dire la mort, puisque vous nous disiez dès qu'on parle de tristesse, localement on utilise plutôt la notion de dire la mort. Et là on va vers des bidonvilles kurdes à Istanbul, de femmes qui ont été déplacées en raison de la guerre entre l'armée turque et le Parti des travailleurs du Kurdistan, et qui, à la différence des chiites, des femmes azéries en Azerbaïdjan, ne disent pas la mort, mais disent plutôt l'exil. Alors comment faut-il le comprendre, Estelle ?
En fait, ce sont donc des femmes qui ont dû quitter contre leur gré leur village, leur terre natale, et réfugiées dans des bidonvilles, dans des conditions de vie en général assez précaires. Elles mettent en mots mélodisés, leur souffrance liée à l'exil et au déplacement. Et ces énoncés qui, là encore, donc, relèvent de la parole dans la typologie locale, oscillent entre des lamentations, des chants épiques et, plus surprenant peut-être, des berceuses.
Alors, est-ce qu'il y a un enjeu national pour des Kurdes autour de cette forme-là ?
Oui, il y a un enjeu national. Le fait même, en fait, de chanter en kurde est un acte politique en Turquie. D'autant plus dans les années 2000, au moment où j'ai effectué ce terrain, c'était vraiment le fait d'ouvrir la bouche et de parler en kurde en public était un acte politique assez fort.
Alors, ce qu'on va entendre tout de suite, c'est justement un récit épique, une lamentation repris à une grande chanteuse kurde, Aisha Shan. Elle est née aussi à Diyarbakir, on va en reparler en 1938. Et les paroles s'adressent à sa mère.
À sa mère malade, donc à la mère d'Aïche Shan. Mela Feleknaz, la chanteuse qu'on va entendre, chante ses paroles en son nom. Donc elle s'adresse à sa mère malade en l'appelant à aller vers elle dans les montagnes du Kurdistan pour y boire l'eau claire des sources. Et le dernier vers qu'elle dit dans cette parole mélodisée est « Je suis gravement blessée, notre pays est détruit ». Pillé, personne ne nous entend. Donc, des vers assez politiques. This I wrote the lame, she would be like, I can't be ramble. Hey,
خسره چاوه مرمنه فنا باران آباره اشخوره دنو دکم ناکم ناسکنه خریبم دای وزدورم دای بکسم دای بده کسم نمای دای دای قربانی رو چارو چنده دای کام نخوش آیا متنینه دیسایی رو دلی مشوته دای کام که بیرام نه دای قربانی رو چارو چنده دای کام نخوش آیا متنینه دای کام جفرا به کسو خوی دنوا گولا خونه دای دمینه دای دای خریبم دای دای به کسم دای دای وز دورم دای دای وز بمرم دای دای قربان از دای که خوامی خوراری دشتو زو زانا دای و میبگری لیچی او بانی آره باب قالا دای و میبخونا به سرکانی دای دای برینا میکوره دای ولات میویران گازی میدوره دای
Feleknaz, donc dans un bidonville kurde à Istanbul. Feleknaz, avec vous, c'est l'ami de la Bretèque, est une dengbej. Alors, dengbej, on traduit généralement par barde. Mm-hmm. Mais est-ce que ces dengbej ont un statut particulier? Quelles sont-elles, ces femmes?
Alors, les dengbej ne sont pas forcément des femmes, ça peut être des hommes et des femmes. Et donc, ce sont effectivement des bardes. Littéralement, dengbej, c'est celui qui dit la voix. Donc, c'est des colporteurs de nouvelles et d'histoires. Et traditionnellement, ils étaient plutôt itinérants de village en village. Et c'était plutôt des hommes. En fait, c'est à partir du début du XXe siècle, à partir de figures emblématiques comme Ayşe Şan, que l'on commence à rencontrer des femmes dengbej. Feleknaz est une dengbej à temps partiel, disons. C'est aussi une femme au foyer avec quatre enfants. Mais de temps en temps.
Qui se fait rémunérer pour des mariages ou des...
Voilà, tout à fait. Elle est appelée pour chanter dans des mariages ou dans des fêtes. Dans ces cas-là, elle est rémunérée. Elle était d'ailleurs venue en 2005 à la Cité de la Musique pour faire un concert.
Alors, ce qu'on entend aussi sous nos voix, cette fois-ci, c'est le récit de Védia. C'est un nouveau enregistrement, Estelle, amie de la Bretèque, qui dit ce qu'elle a sur le cœur. On a toujours l'impression quand même que dans ce répertoire de paroles mélodisées, dire ce qu'on a sur le cœur d'un point de vue personnel rencontre toujours finalement une dimension un peu plus grande qui est liée à des considérations plus politiques sur le Kurdistan, sur des appels aussi à l'aide. On appelle à l'aide des Peshmerga, par exemple.
Tout à fait. Dans les bidonvilles kurdes d'Istanbul, la dimension politique est omniprésente. Et donc là, c'est un récit épique qui est mélodisé par Vediha. Et elle évoque la perte de son village. Donc il y a une teinte de nostalgie pour la terre natale. Mais elle appelle aussi les Peshmerga, donc les combattants kurdes, à l'aide. Et elle finit même ce chant en maudissant le gouvernement de Mustafa Kemal Atatürk, donc gouvernement de 1925, hein, donc, avec un anachronisme assez flagrant. Et c'est en fait assez typique de ce type de forme poétique où le récit épique, qui raconte donc des faits lointains que le narrateur n'a pas vécu, dont il n'a pas été témoin, et ce récit épique se mélange avec une rancœur et une nostalgie plus personnelle et plus actuelle.
Allah ve meyye bu kurmacıyı
چاره نیخ و لج ایراق حیا برو لج ایراق حیا برو الله خیر جیا سر کبرو و می واخیم بکن دریا خونه در دبرو و می واخیم بکن در دبرو آخ وره وره که کو وره و لطو و لطه خواب گرم تو و لطه خواب گرم اخویش کبرو هیویا و نیخ ویله دلوانه بکه دره دلوانه بکه دره آخ وره وره که گو وره ایخ ویله حنیفای سدگا بکه گازی فاطیمه صلاح نیفای سدگا دکیر گازی فاطیمه هر لیل خویم ولت لذ بکه بلا زینا تو لذ بکه بلا زینا ولت رکا خوبان امدان یا شوتی لیلم
Nous sommes dans ce récit épique chanté ici par Vedia. Alors je disais tout à l'heure que nous étions encore dans ces bidonvilles kurdes d'Istanbul. En fait non, nous sommes dans un lieu beaucoup plus symboliquement fort pour des Kurdes en Anatolie. C'est la ville de Diyarbakir. Diyarbakir, et c'est la bibliothèque, ça représente quoi pour des Kurdes ?
Alors Diyarbakir, en kurde Ahmed, c'est la capitale du Kurdistan turc, ou même pour certains Kurdes, du Kurdistan tout court, c'est-à-dire du Kurdistan, y compris le Kurdistan irakien, syrien et iranien. Puisque vous le savez, le Kurdistan n'est pas un état reconnu. Donc Ahmed, en fait, Diyarbakir est un lieu d'exil pour Feleknaz, puisqu'elle vient de Mouche, donc c'est dans des montagnes à quelques centaines de kilomètres de Diyarbakir, et son village a été brûlé et a été déclaré zone interdite par l'armée turque au courant des années 80. Lors des affrontements avec la guérilla du PKK. Et à ce moment-là, donc, Feleknaz, comme un bon nombre de Kurdes de ces régions-là, ont trouvé exil dans une ville qui, elle aussi, est kurde. Donc on n'est pas vraiment en terre étrangère, mais on n'est plus au village. Donc dès qu'on n'est plus au village, on est en exil.
Et puis on entend aussi, alors il ne fallait pas se retourner pour savoir si c'était son téléphone portable, mais on entend évidemment, c'est les nouvelles conditions d'enregistrement. Il y a très souvent des gens qui ne pensent pas forcément éteindre leur téléphone portable.
Et les conditions d'enregistrement sont, enfin, en tout cas dans mes terrains, j'enregistre souvent dans les conditions de vie normales. Je ne demande pas forcément aux gens d'éteindre leur téléphone avant d'enregistrer. Et donc très souvent, on peut entendre des sonneries.
Alors ce qui est quand même étonnant, c'est que par rapport à ce qu'on va entendre aussi tout de suite, chanté par Nafia, donc là on retourne à Istanbul en réalité.
Dans les bidonvilles.
Voilà, c'est que cette parole mélodisée qui chante le désespoir de l'exil avec des revendications aussi politiques utilise une forme, on va dire, de vocalité, même si le terme n'est pas complètement approprié, mais d'énonciation qui est sensiblement la même que par exemple des berceuses. Et c'est vrai qu'en écoutant cela, ce chant magnifique, on a ce sentiment d'apaisement d'un chant qui est systématiquement a cappella et qui parfois emprunte, comme ce qu'on va entendre tout de suite, les formes d'une berceuse, donc là, adressée à un enfant.
Oui, il se trouve que ce sont des énoncés qui sont très souvent dits par les femmes quand elles sont en petit comité, donc avec leur enfant. C'est un public tout à fait agréable pour ce genre de chant et très souvent les femmes énoncent leur souffrance à leur enfant ou leurs enfants quand elles les bercent. Donc ça devient des berceuses. Et la forme est assez similaire de tout ce qu'on vient d'entendre, puisque l'ambitus est restreint, le rythme n'est pas très mesuré, et il y a des plateaux mélodiques descendants. Donc c'est entre la lamentation et la berceuse. Mais il se trouve que les femmes endorment leurs enfants avec ces...
Mais avec des paroles assez dures, en réalité.
Avec des paroles très dures, oui. C'est très souvent... Enfin, comme dans l'exemple qu'on va entendre, c'est « Dors, mon enfant, ton père est en prison ». Ça commence comme ça.
Da hai
خوازبری بند قصر سنگا دلالا دل خواب شدینه ایم های ده های 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 نب خوده دوام آوه همش بی کریه مرشه بچه یا کانی نال مدرشه ده های 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 وزه دکم نا کم نا بس بیا خما دلال دل منای های هاله ده های های خمدگانه بهاره نه ها بینه نه پایزه هاله ده های هاله هاتی هاله زبستان و چلکانی نای همدی بر فکر باری لیل جای کردستانه اوله ده های 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 خوزد چو یام جای کردستانه دنره یام تمر گو کانی اوهای خوازد نرم اگی دو حوالو ها گیه آید گره سمیر گو کنی آی آل لین آواسوس نا ببینو نرگز آی وزدن کی با که با حوال و براهونه بنه و ملورینه این و میبکی دومکی سر کردستان و شیرین و دلاش خرابه شیعون خوره های های ده های 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 خوره و زد چوی و عمل بوتان و رنگی جزیرا بوتا و بر جا بله و لودای و زلد نره تو پوتان گدش من تدا قرقال دانی و زبه جیم گل کردستان تبرا بی و می بچین دینن بی دجمنی درین آی جوالات کردستانی آی و می بدلو جان والات خواب و بکین آی دهای و زیب جب جکل آی آی دل دای که دل شواد را آی
Voyage, grand plaisir que de vous recevoir, Estelle, amie de la Bretagne. Si vous nous rejoignez de votre côté du poste, bien nous avons fait déjà deux destinations, Azerbaïdjan et puis l'Anatolie, dans ces villages, donc Istanbul, avec les bidonvilles kurdes, et puis aussi les villages de l'Anatolie orientale. Et alors la troisième destination, c'est l'Arménie, que vous connaissez très bien, Estelle, amie de la Bretagne, avec justement la communauté religieuse des Yézidis. Alors, on reste toujours dans le Caucase, mais peut-être quelques mots d'explication sur la première rencontre aussi avec les Yézidis d'Arménie, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire Yézidis ?
Alors les Yézidis d'Arménie, effectivement, c'est une petite communauté dans le Caucase. Ils sont à peu près 60 000, puisque la majorité des Yézidis, en fait, habitent, vivent en Irak. Il y a à peu près 200 000 Yézidis en Irak, et on en a récemment entendu parler, tristement, aux nouvelles. Donc les Yézidis sont en fait une communauté religieuse, kurdophone pour la plupart. Certains se définissent d'ailleurs comme kurdes, mais ce qui compte pour eux, c'est qu'ils ne sont pas musulmans, ils sont Yézidis. Alors qu'est-ce que c'est qu'être Yézidi ? En fait, c'est une religion syncrétique, monothéiste, donc ils n'ont qu'un seul dieu. La grande spécificité du yézidisme, c'est qu'ils n'ont pas de livre saint. Et donc il n'y a pas de texte saint, et il n'y a pas d'écriture possible d'ailleurs des textes religieux. L'écriture est proscrite. Et il n'y a pas non plus de conversion possible, c'est-à-dire qu'on est yézidi de naissance. On est yézidi ou on ne l'est pas, mais on ne peut pas le devenir, ni sortir même du... Enfin, il est plus facilement possible de sortir de la communauté
que d'y
rentrer. Voilà. Et puis, caractéristique encore un peu plus étrange d'ailleurs dans cette région, c'est que la communauté est constituée de trois groupes endogames et héréditaires qui s'apparentent à des castes. C'est-à-dire que de naissance, on est non seulement yézidi, mais on est ensuite cheikh, pir ou mirid. C'est-à-dire, les cheikhs et les pirs sont deux groupes de religieux, et mirid, ce sont les disciples. Donc, par naissance, on est religieux ou on ne l'est pas.
Alors, comment se transmettent les textes saints ?
Alors, en l'absence de livres, ils se transmettent oralement dans les familles de cheikhs et de pirs, de parents à enfants. Et d'ailleurs, on va entendre tout de suite un exemple de texte religieux qui, en fait, il existe deux grands types de textes, les qaoul et les bayt. Et là, on va entendre un bayt.
Valena yuma Ona Yahya ma Ona mirma na hamar ma na Musa ma نا فرح ما نا جمشيد ما نا أفلاطون لقمان ما بل نا طاطي لطي سقراط ما نا جاني لطي بقرد ما بلنا زرقاتو ونمرد مان ونجاني جميع إقبال ما نهار ما ونمار ما نحازر ما نمرد ما هنا أولادي أقوم ما أبي بيري أسفي من إن أزل جيد خوارا
Monodie absolument magnifique, monodie des Yézidis, des villages d'Arménie. Estelle Amy de la Bretèque, alors vous nous disiez qu'il y avait deux types de textes saints qui étaient mélodisés, les kaoul et les bayt. Et ici c'est un bayt pour le monde, alors qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait c'est un bayt dans lequel il est expliqué que le monde n'est qu'un lieu de passage. Et les paroles disent que tout comme Adam, Noé, Moïse, Ferhoun et Platon, qui ne sont pas restés éternellement en ce monde, eh ben nous n'y resterons pas non plus.
Et qu'en est-il de l'autre forme, Kaoul ?
Donc les qawls sont des prières qui sont dites à des occasions spécifiques et qui emploient un mélange de kurdes et de mots arabes. Et donc souvent les yézidis mirides, les disciples, ceux qui ne font pas partie des castes de religieux, ne comprennent pas vraiment le sens des paroles des qawls. Alors que les bayt, comme ce que nous venons d'entendre, sont plutôt des récits hagiographiques qui sont dits dans une langue compréhensible par tous.
Alors les yézidis d'Arménie sont des gens qui ont fui les villages d'Anatolie, Estelle Amine Laprotec.
Tout à fait. Les Yézidis d'Arménie sont tous originaires de la région de Gaziantep, en Turquie, et ils ont migré en deux vagues successives, une première en 1828-29 et la deuxième en 1915-16. En fait, ils ont à chaque fois trouvé refuge derrière les rangs des armées tsaristes pour fuir les persécutions des musulmans dans l'Empire ottoman. Donc ce sont des gens qui ont fui l'Anatolie et qui gardent une mémoire de cet exil dans leurs paroles mélodisées.
Et qui habitent au pied de cette montagne presque mythique aussi, Aragats.
Ils habitent autour du mont Aragats qui fait face au mont Ararat, qui est le mont le plus mythique. Donc ils habitent autour du mont Aragats, duquel on voit le mont mythique. Ils vivent surtout à la campagne et ils sont avant tout bergers. Ils gardent des moutons et ils font avec eux la transhumance estivale vers les hauts plateaux. Et d'ailleurs les Arméniens des villages leur confient souvent leurs troupeaux pour l'été, pour qu'ils les emmènent dans les pâturages.
Un exemple magnifique de chant dit stran, donc responsorial. On a deux hommes, nous sommes dans ces villages des Yézidis d'Arménie, au pied du mont Aragats avec vous, et c'est l'ami de la Bretèque. Alors, ce qu'on entend ici, c'est vraiment considéré localement comme étant du chant.
Oui, stran, alors, c'est un chant. Et
qui parle d'ailleurs de pâturage. Hein.
Qui parle, voilà, qui compare la beauté d'une jeune femme à celle des pâturages estivaux. Et donc stran, c'est un chant, et le chant pour les Yézidis, c'est lié à la danse. Donc il y a une pulsation régulière, tout chant doit avoir une pulsation régulière, et doit pouvoir être dansé. Donc là, c'est une forme responsoriale à deux personnes, mais ça pourrait être deux groupes de personnes, et très souvent, on danse et on chante en même temps.
Alors, forme de chant qui est opposée, on y revient, à cette parole mélodisée. Parole mélodisée, et c'est vrai que en mélodisant la parole, bah, ça prend un peu plus de temps. Et j'ai vraiment l'impression que l'émotion, quand on parle d'émotion, quand on parle d'exil ou de mort, chez les Yézidis d'Arménie, doit systématiquement utiliser un temps qui n'est pas pulsé, qui n'est pas rythmé, une autre temporalité pour mieux, je sais pas, pour mieux savourer, pour mieux embrasser.
Pour mieux écouter.
Et pour mieux écouter.
La parole mélodisée s'oppose vraiment au chant dans la typologie locale. Le chant doit être dansé et la parole mélodisée doit être écoutée. Et donc là, les mots ont une importance. La forme vocale et poétique est centrale et on écoute ce qui est dit. Et d'ailleurs, dans les commentaires des auditeurs, on commente les mots. Les commentaires sont du style « Ah, il a bien dit ceci, il a bien dit cela, quelle belle formule, quelle belle métaphore ». On commente les paroles, on commente les mots plus que la ligne mélodique.
Et c'est les paroles sûres
Alors, en kurde, on dit kelam eser, donc ça veut dire parole sur quelque chose ou parole à propos de quelque chose. Et il y a des paroles sur l'exil, des paroles sur la mort, des paroles sur le héros. Kelam eser kheribiye.
Donc différentes hiérarchisations de ce répertoire de paroles sur.
Voilà, on qualifie le sujet dont on va parler. Si c'est des paroles sur l'exil, on va parler du déplacement. Alors l'exil, il peut être très divers. Ça peut être l'exil d'Anatolie, mais ça peut être le nouvel exil, l'exil vers les villes russes. Puisque depuis la fin de l'URSS, il y a une bonne partie de la communauté qui va travailler en Russie. Donc ça, ça donne sujet à des paroles sur l'exil plus contemporaine.
Alors Feyzo Rizo, qu'on va entendre tout de suite. Alors attention, je le dis pour les auditeurs, ça a tombé par terre tellement c'est beau. Qui est-il ?
Feyzo Rizo, c'est un yézidi d'Arménie qui vit dans le village de Massis et qui est un dengbej. On revient sur ce terme, un barde, quelqu'un qui dit la voix. Donc un orateur qui est très très respecté et connu parce qu'il a une voix magnifique et parce qu'il dit bien ce qu'il a à dire, d'après les auditeurs. Donc là, dans l'exemple que nous allons entendre, il dit un kla meser merani, donc une parole sur le héros, autrement dit un chant épique. Et dans cet extrait, qui est extrait d'une épopée assez grande, l'un des protagonistes s'adresse à sa mère en lui disant de laisser venir à elle son bien-aimé et de le laisser l'enlever s'il le désire. Et la narration se déroule très lentement et est entrecoupée de remarques sur la noirceur du destin, sur les amours malheureuses et impossibles. Et donc le ton est très nostalgique.
I'm a boy, I'm a
Feyzo Rizo du village de Massis en Arménie, enregistré par vous, Estelle Amy de la Bretèque. Alors, quel chanteur absolument hallucinant.
Une voix magnifique, oui.
Une vocalité, mais vraiment absolument époustouflante. Et alors, ce qui est quand même tout à fait intéressant dans ces histoires de distinction entre chant et parole, donc ce répertoire des paroles sur Klamser, c'est que ça doit en dire quelque chose sur le rapport à l'émotion. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que le modèle pour les yézidis d'Arménie, c'est vraiment la voix, c'est la vocalité.
Oui, la référence, c'est la voix. Que ce soit pour la musique vocale ou instrumentale, on qualifie tout énoncé soit de parole, soit de chant. Et quand on est du côté de la parole, on est du côté de la tristesse et de la nostalgie. Quand on est du côté du chant, on est du côté de la joie, la danse. Et pour les instruments, donc cette distinction...
Là, ce qu'on entendait, c'était le doudouk.
Voilà, en arrière-fond de Feyzo, on entendait un doudouk, donc un hautbois, joué avec la technique du souffle continu, qui reprenait les phrases mélodiques de Feyzo, un peu en décalé, après lui, et qui tenait un bourdon aussi, lorsque Feyzo chantait ses phrases, enfin énonçait ses phrases textuelles. Et dans la communauté, il y a deux types de hautbois qui sont utilisés. Le doudouk, qui a un son grave et qui est dit parler. C'est un instrument qui parle et qui raconte des choses tristes. Les yézidis disent souvent qu'en écoutant le son du doudouk, on ne peut pas se retenir de pleurer. Mmh. Et l'autre hautbois qui...
On voit souvent des gens pleurer. C'est un pleur intérieur ou
bon,
c'est simple?
C'est plutôt, en écoutant juste le doudouk, c'est plutôt un pleur intérieur. Mais les gens sont graves. Ils ont une allure assez calme, sereine. On ne danse pas sur le doudouk. En tout cas, ça, c'est assez évident. Et comme souvent, il accompagne, il est présent dans les cérémonies funéraires. Là, dans ce cas-là, les gens pleurent. Mais il y a la douleur du jour, du moment, du rituel qui s'ajoute à celle provoquée peut-être par l'instrument. Et l'autre hautbois qui est utilisé dans cette communauté, qui est d'ailleurs un instrument qui est présent dans toute la région, c'est le zurna, donc un hautbois beaucoup plus petit, plus aigu, avec un son plus strident, et qui est joué en duo, toujours en couple, avec un tambour sur cadre qu'on appelle le dohol ou davul selon les régions, et qui accompagne lui la danse. Et ce hautbois-là, le zurna, est dit chanter.
Alors ce sont ces deux instruments qu'on va écouter, doudouk en premier et zurna juste après.
Thank you.
C'est le son absolument fascinant du Zurna que nous entendions ici, qui était précédé de deux doudouks, donc distinction toujours en Arménie dans ces villages yézidis entre le chant et la parole. Estelle Ami de la Brotec. Là, le contexte de ce qu'on entend, Zurna, c'est quoi? Alors, c'est un mariage, non?
C'était lors d'une fête calendaire qu'on appelle Khidr Nabi. C'est une fête qui a lieu en février et qui est une fête carnavalesque au cours de laquelle les hommes se déguisent et portent des masques. Et accompagné d'un davoul et d'un zurna, donc de deux musiciens, hautbois et tambour, ils se déplacent en procession dans le village et ils vont de maison en maison pour danser et pour boire de la vodka. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit, quand on arrive à la dernière maison, on y arrive en général en titubant. Et l'atmosphère et l'ambiance est à la fête.
Alors, c'est l'ami de la Brotec, on parlait de ce statut de dengbej en ce qui concerne les villages d'Anatolie orientale, donc de bardes. Il y a un autre statut dont vous allez nous parler tout de suite, moi qui m'a beaucoup fasciné, c'est le statut de Dilshewat. Dilshewat, ce sont des femmes qu'on appelle des femmes au cœur brûlant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont-elles?
Alors les femmes au cœur brûlant, les femmes Dilshewat se rapprochent un peu des femmes Mola dont on a parlé en début d'émission, si ce n'est qu'elles n'ont pas un statut de professionnelle et elles n'ont pas une formation, elles ne suivent pas une formation religieuse. Donc c'est un peu comme les femmes Mola, c'est-à-dire le rapprochement avec les femmes Mola est dans l'expérience d'un deuil, un deuil dont on ne guérit pas. Donc les femmes au cœur brûlant sont des femmes endeuillées éternelles, en fait. Ce sont des femmes qui ont perdu quelqu'un, un être proche, un être cher, et qui vivent avec ce deuil au quotidien.
Donc on ne guérit jamais du deuil, dans la conception même localement?
Pour les femmes au cœur brûlant, non, on n'en guérit pas. Et ce n'est pas tant un but de guérir d'un deuil, l'idée c'est de vivre avec son deuil, et de vivre éventuellement bien, mais de ne pas oublier les défunts et de ne pas guérir du deuil. Donc les femmes au cœur brûlant sont en général des femmes qui ont plus de 40 ans, ce sont des grand-mères, elles n'ont plus de jeunes enfants à leur charge, et elles donnent leur vie pour la mémoire des défunts. Elles continuent à entretenir la mémoire de leurs proches décédés, et elles font ceci dans les rituels funèbres, donc dans les funérailles, elles prennent la voix, elles prennent parole en mélodisant leurs paroles, mais aussi au quotidien, dans les cuisines. Par exemple, quand elles font à manger ou quand on va boire un thé chez quelqu'un, quand la personne a plus de 40 ans et qu'elle est au cœur brûlant, et on a de grandes chances d'entendre un récit mélodisé sur la mort de ses proches.
Et c'est exactement ce qu'on va entendre ici parce que vous êtes dans une cuisine.
Exactement. Donc là, ce qu'on va entendre, c'est enregistré dans la cuisine d'Altoun. Altoun est une femme au cœur brûlant, elle a une cinquantaine d'années et elle a perdu son fils, Romik, qui a été tué en Ukraine. Et elle ne s'est pas remise de cette mort. Et depuis, elle mélodise le récit de Romik à toute personne qui veut bien l'entendre. Donc là, on était allé lui rendre visite avec Jemile, l'infirmière du village d'Alagaz. Donc on est dans le village d'Alagaz, dans la cuisine d'Altoun. On est allé lui rendre visite pour lui expliquer comment fonctionnait le glucomètre dont elle allait devoir se servir pour vérifier son taux de sucre dans le sang. Donc Jemile expliquait l'emploi de l'objet à Altoun. Et puis, à la fin de l'explication, Altoun a dit ah oui, et depuis la mort de mon fils, je n'arrive plus à penser à autre chose. Et elle s'est mise à mélodiser le récit de Romik.
Ай, добра вера на Україні не коштана, лави мен. Тра не ще утяк і забри мен. Враїм фатилі не хаста бри мен, браха гуля не кразом і кибави мен.
Là, sans véritable transition, Altoun s'est mise à mélodiser le récit de Romik et elle évoque la douleur de la perte. Elle dit qu'elle aurait voulu qu'il porte son cercueil à elle et que ce ne soit pas elle qui porte son cercueil. Et elle regrette d'avoir la responsabilité des orphelins de son fils sur ses épaules.
Hamgo shalikolao, whatever yakimuraneke, امرنا ترك ويرانا اوكرانيه بكا دايكا تغنيا انك تشكا سريا نك هيسيرا بدريا اي مغو سيروش بريمنو ويرانا امرنا نك ادلخا رومي كلاو مغو
Ce qui est assez caractéristique dans l'énoncé d'Altoun, c'est que la temporalité est floue. Elle utilise à la fois le passé, le présent et le futur, et on sait rarement à qui elle s'adresse vraiment. Tantôt elle s'adresse à son fils, elle s'adresse à elle-même, elle s'adresse à l'audience, et chacun a la possibilité d'interpréter les paroles pour lui-même s'il le souhaite. Et de se laisser transporter dans la nostalgie d'Altoun. Sans mon fils, je suis une exilée sur cette terre. La référence à l'exil est toujours présente dans ses paroles mélodisées. Mais de manière assez libre, c'est-à-dire que vraiment chacun est libre d'y projeter ses propres deuils et ses propres souffrances. Et de fait, Jamilé, l'infirmière, et moi-même, on a été assez affectés ce jour-là. On est ressorti de la cuisine d'Altoun, les larmes aux yeux. L'entrée dans ce genre de paroles mélodisées se fait de manière assez brusque, vous l'avez entendu, on parle et puis tout d'un coup on mélodise. Et la sortie est assez brusque aussi, puisqu'en fait à la fin de la parole mélodisée d'Altoun, on a tous poussé un grand soupir, il y a eu un petit silence et puis après on s'est mis à parler d'autre chose. Et au fond, la vie continue.
Dans la cuisine d'Altoun, en Arménie, enregistrée par vous, Estelle, amie de la Bretec, donc souffrance, Altoun qui dit la mort de son fils. Et c'est vrai qu'en écoutant cela, on se dit quand même que la souffrance individuelle, personnelle, rejoint toujours une forme de souffrance collective, que la souffrance, au-delà du fait qu'il faut y trouver une place dans la vie, c'est aussi quelque chose qui se partage.
Tout à fait. Quelque chose qui se partage, qui s'entretient et qui soude finalement les villageois et les membres de la communauté ensemble. Et en ce sens, ces énoncés sont des énoncés très appréciés, très valorisés. On ne cherche pas du tout à se défaire de ce deuil et à ne pas écouter ce genre d'énoncés. On est content de les entendre, aussi étonnant que cela puisse paraître. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence dans la conception du deuil par rapport à ce à quoi on est habitué en Occident, puisque là, on n'est pas dans un deuil qui doit disparaître au bout de quelques semaines. On ne doit pas se ressaisir, aller de l'avant, oublier. On doit plutôt perpétuer la mémoire des absents, c'est un devoir. Et pour les femmes au cœur brûlant, comme Altoun, que nous venons d'entendre, les paroles mélodisées sont aussi des occasions significatives de parole. C'est-à-dire que c'est des moments où elles peuvent dire ce qu'elles ont sur le cœur, dire ce qu'elles ont envie de dire, et personne ne va les interrompre, puisqu'on n'interrompt pas, à la différence du dialogue dans la vie quotidienne. Quand quelqu'un mélodise sa parole, on ne l'interrompt pas, on ne l'arrête pas, on l'écoute jusqu'au bout. Donc c'est des moments assez privilégiés pour dire ce qu'on a sur le cœur et qui donnent, en échange, ça confère du respect, disons, et une grande empathie de la part de l'auditoire et finalement une place charismatique dans la communauté. Donc Altoun et les autres femmes au cœur brûlant sont des femmes respectées et respectables.
Alors là, c'était justement dans des conditions tout à fait privées d'enregistrement. Il se trouve aussi que ces femmes au cœur brûlant disent la parole mélodisée dans des contextes funéraires, en l'occurrence avec ce qu'on va entendre tout de suite, donc 2007. Et cette autre femme au cœur brûlant, c'est Hasmig.
Hasmig, lors des funérailles de Rehbet, donc qui était une jeune femme décédée en février 2007, elle mélodisait donc durant les trois jours de veille du corps, juste avant l'enterrement du corps, elle a mélodisé ses récits de deuil personnel et ceux de la communauté. Donc elle parlait de la mort de Rehbet, elle parlait de la mort des proches des femmes qui étaient dans l'assemblée et de ses morts à elle.
Voilà, pour finir ce carnet de voyage, nous sommes en plein rituel funéraire dans un village d'Arménie, chez les Yézidis, avec le chant de Hasmig, qui est donc une femme au cœur brûlant, qui est accompagnée, on l'entendait, avec d'autres femmes au cœur brûlant, qui pleurent le mort. Estelle, amie de la Bretèque, n'importe qui peut prendre la parole dans ce contexte-là ?
En contexte de rituel funéraire, oui, n'importe qui peut prendre la parole, mais ça c'est en théorie. En pratique, ce sont surtout les femmes au cœur brûlant qui ont une expérience dans la narration mélodisée de la nostalgie et de la douleur qui monopolise presque l'espace sonore durant les 3 jours de veille du corps. Donc les femmes au cœur brûlant et les proches parentes. C'est-à-dire quand on est la mère, la fille ou la sœur du défunt, il est de bon ton de dire quelques paroles mélodisées durant les 3 jours. Mais comme ces femmes-là ont en général moins d'expérience que les femmes au cœur brûlant, ce sont de courts énoncés.
Et puis, donc qui est cet homme qu'on entend ?
Voilà, en plus des femmes au cœur brûlant, il y a aussi parfois, dans certaines funérailles, des musiciens professionnels qui sont invités pour mélodiser leurs paroles. Et cette fois, ils sont professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont payés. Donc là, on entend Sefto, qui est un musicien qui est des fois accompagné par 2 joueurs de doudouk. Et ce jour-là, il est venu tout seul, sans les joueurs de doudouk, parce que la famille de l'herbette était assez pauvre et qu'il n'avait pas d'argent pour payer les musiciens, les joueurs de doudouk. Donc le chanteur est venu seul. Donc là, c'est un chanteur professionnel, Sefto, qui mélodise sa parole pour la mort de l'herbette. Donc c'est des paroles, disons, sur mesure pour le défunt du jour.
Un grand merci à vous, Estelle, amie de la Bretèque.
Merci.
Hesse ne mo chame me Ah da bro achi cho koze un kola tele khra be jam be bro ne bre Leila khush ko ham ne la de bre me Bend green dle me Havara nave khade me sazare gavad miren bre khush kabra bejan es ne va chave me da gali om do havara nave khade bezalame da gavad do kushin kushte chola da gava o hadda belki rabel gule ofto mo hadda sa kurdana halan deste vana yara adam Da bejan questi queste questi so bene da che je wanna away kune vo aste how was the man dura falako questi khere vo e qanabine how on ever was that the man How on, then you get boys better. As a Belgium to not better, Robert Sarkota November, Nene Sarkota.
Chant de deuil et d'exil dans le Caucase avec Estelle, amie de la Bretèque, réalisation Claire Lagarde, préparation Céline Tran, prise de son et mixage, Pierrick Charles, Manuel Couturier. Be how shall mola bo emne hozam yo with the garion
How what dinya get that we learn How what George Costco gonna eti me wala le da mine Debra fella guy lost khere wa eh khana bine آخسا برین داره دست دکتر دایم این دکتر دا که دوز آنا سرا و سکنیه ایلاز گو بخته و دام از این جهالم گرم خلاص گرم برا از این نبره مهتی مهمت نمین نکم نه بردستایم
Samedi prochain, immersion chez les chamans de Sibérie avec Henri Lecomte.